Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux donc pour cette présentation autour des 15 ans de la collection Folio SF. Je vais introduire rapidement le sujet et puis après je laisserai plutôt la parole à nos invités que je vous présenterai, même si certes, l'un d'entre eux est peut-être moins à présenter que l'autre. Donc Folio SF, c'est une collection de livres de poche publiés par les éditions Gallimard, une collection de science-fiction, fantasy, fantastique et autres choses bizarres. Ça fait donc 15 ans depuis octobre 2000, donc pile 15 ans que la collection a été créée. Et on a essayé de rendre cet anniversaire un peu festif et on ne voulait pas du coup faire quelque chose juste d'un peu anecdotique. On voulait faire en sorte que les lecteurs participent à cette fête. Et donc on s'est dit on va faire un concours, mais alors un concours de questions, c'est un peu bateau, c'est pas très intéressant, puis c'est en termes de festif, c'est pas terrible. Donc on s'est dit comment faire intervenir les lecteurs, comment les faire participer. On s'est dit on pourrait faire un concours de nouvelles, mais là encore un concours de nouvelles, c'est pas, enfin voilà, ça a déjà été fait, et puis est venue l'idée de la fanfiction. Alors pourquoi la fanfiction? Déjà, qu'est-ce que la fanfiction? Parce que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. En fait, c'est un texte, une nouvelle, ou d'ailleurs ce n'est pas forcément un texte, ça peut être une bande dessinée, un film. Enfin, c'est une adaptation ou un dérivé d'une œuvre déjà existante. Donc en gros, il en existe beaucoup sur des héros très, très célèbres, comme par exemple Harry Potter. Il y a beaucoup de fanfiction autour de ça. C'est très, très vivant aux États-Unis, peut-être un petit peu moins en France, mais même s'il y a une communauté très active, notamment sur le web. Donc du coup, nous, ça nous a semblé pertinent, d'autant qu'on est déjà, nous, très présents sur le web. On a une notoriété plutôt très bonne sur les réseaux sociaux et sur les blogs, etc. Et puis on s'est dit, très bien, faisons ça, faisons ce concours de fanfiction, mais à partir de quelle œuvre? Et très vite, un roman s'est imposé, celui donc d'Alain Damasio, ici présent, La Horde du Contrevent. Alors pour plein de raisons, la première, c'est que déjà, il fallait que ce soit, si on voulait avoir un minimum de participants, une œuvre qui soit un minimum, qui ait un minimum été lue. Et pour aujourd'hui, on peut le dire, mais La Horde du Contrevent est un best-seller. On a largement dépassé les 150 000 exemplaires vendus, ce qui veut dire qu'en plus, c'est un livre qui se prête, qui se donne, qui se partagent, donc on est sans doute bien au-delà des 200, si ce n'est 300 000 lecteurs, donc on a déjà un vivier de gens qui connaissent le roman suffisamment large, et puis surtout, c'est un roman d'une richesse incroyable, avec des niveaux de lecture nombreux. C'est un roman qui a eu un prix de lycéen, c'est un roman qui a eu des prix, entre guillemets, adultes, par des jurys, donc du coup... Lisible par tous et en plus à des degrés de lecture, à des niveaux de lecture très différents. Moi, j'ai vu des lycéens s'enthousiasmer à la lecture du roman. J'ai vu des gens parler avec Alain de Nietzsche, Deleuze. Normalement, c'est à ce moment-là que je m'endormais. Donc voilà, ça nous semblait évident. On a lancé l'idée et je pense que c'est assez cohérent avec ce qu'est Folio SF, c'est-à-dire une collection qui permet de nombreuses découvertes. La Horde du Contrevent a été la plus belle découverte de la collection sur ces 10 dernières années. Il y en a eu d'autres. Il y a eu les ouvrages de Jean-Philippe Jaworski, de Stéphane Beauverger, de Mélanie Fazi. Je suis très fier de publier des auteurs comme Christopher Priest ou Robert Silverberg qui sont ici. Mais ça nous semblait coller avec l'idée et l'identité de la collection. Donc on a lancé ce concours. Il y a eu finalement très peu de temps pour les participants et on a eu l'agréable surprise d'avoir un beau succès, un beau retour. Enfin, c'est-à-dire qu'à 3 jours de la date limite de rendu des textes, on avait un peu peur. Mais en fait, ils sont tous arrivés la dernière heure en réalité. Donc, c'est bien parce que ça voulait dire que finalement, les gens, ils avaient jusqu'au dernier moment peaufiné leurs textes. Et le fait est qu'on a reçu à peu près 70 textes et on aurait pu recevoir 200, 150 mauvais et puis 50 plutôt bons. Ben, il se trouve que les 70 textes étaient d'un niveau plutôt homogène, plutôt bon. Et ce qui est plutôt cohérent, c'est-à-dire que je pense que s'attaquer à la Horde du Contrevent, quand on se met à écrire, ça met la barre très haut. Donc finalement, on n'a peut-être pas eu 500 participants, mais on a eu 70 participants hyper motivés. Bah, déjà, mine de rien, c'était des gens forcément qui avaient déjà lu la Horde ou qui en tout cas l'ont lu pour l'occasion. Et donc, ça demande déjà un investissement et ils l'ont fait. Et donc, sur ces 70 participants, une nouvelle a été récompensée sans débat d'ailleurs. C'était pas l'unanimité, mais pas loin. Et donc la gagnante du concours est ici présente, Mélanie Fievet, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Step Back. Et voilà. Donc je vais pas garder le micro beaucoup plus longtemps. Je vais déjà demander peut-être à Alain ce qu'il a pensé de cette idée de concours, ce qu'il a pensé des textes qu'il a lus dans l'ensemble, et puis ensuite ce qu'il a pensé du texte de Mélanie.
Au départ, tu m'en as parlé effectivement, je ne sais plus, il y a un an. Bon, je trouvais ça très chouette, évidemment. Chaque auteur est ravi quand la création s'articule à sa propre création. Quoi. Moi, ça, sur ce livre, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu. Il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu des spectacles équestres, il y a une bande dessinée qui est en cours, il y a eu un film d'animation, il y a eu un jeu vidéo. Bon, il y a des trucs qu'on plantait, hein, bien sûr. Mais il y a eu beaucoup de projets artistiques autour. Et par contre, il n'y avait jamais eu l'idée de faire des nouvelles autour de la Horde. Donc je trouvais l'idée bonne, mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et puis vous m'avez sélectionné comme ça, je pense qu'il y a eu quoi, 15 ou 20 nouvelles que vous m'avez... envoyé, et j'avoue qu'au moment où je les ai reçus, c'était un des pires moments pour moi parce que j'avais genre une trentaine de dossiers CNC à lire et donc j'ai abordé ça un peu dans un esprit d'abattage en me disant bon allez, on va voir ce que c'est et j'ai été retourné, c'est-à-dire que je m'attendais pas du tout à l'émotion qui allait me prendre à les lire, quoi. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans mon univers sans m'y attendre du tout et d'une façon qui était surprenante à chaque fois. C'est-à-dire que la première chose qui m'a surpris, c'est que les thèmes abordés dans les fanfictions étaient pile les espèces de cordes ou de fils que j'avais laissé traîner dans le tome 1 pour préparer le tome 2. Quoi. Voilà. Pour ceux qui le savent pas, ça a toujours été un diptyque, la Horde. Ça n'a pas été inventé après pour surfer sur le succès ou quoi. J'ai toujours, dès le départ, imaginé les deux tomes. Et j'ai laissé donc dans le tome 1 un certain nombre de traces, de pistes qui vont être déployées après. Et il se trouve que ces cordes ont été empoignées immédiatement par les lecteurs, et donc j'ai des choses assez étonnantes. D'ailleurs, je voulais vous demander qui l'a lu ici. Est-ce que j'ai que des lecteurs ou ouais, d'accord, c'est on est en ok. Donc je ne vais pas spoiler trop, ça va aller. Et notamment, bon, il y a la fin, bien sûr. Il y a la fin avec les vifs qui sont là. Il y a Barouf, le fils de Roshi, Caracol et Sov, puisqu'ils arrivent à faire des enfants à trois dans la Horde. C'est ça qui est bien. Il y avait effectivement les jumeaux Dubka qui sont sur l'extrême amont et qui deviennent, qui oublient tout et qui se baladent avec les chevaux. Et il y a une nouvelle là-dessus. Il y a évidemment, et on va en parler. La mort de Step, mais la métamorphose de Step en arbre qui est ramenée par Aoi à Kamboban et qui laissait la possibilité d'une rétromorphose et qui est dans le tome 2 et que Mélanie à ma gauche a empoigné. Voilà, il y avait plein de choses. Il y avait des choses sur les fréoles, il y avait des choses liées à l'univers à Burlas, il y avait des scènes comme celle de la Strasse, c'est-à-dire quand Golgoth il a 10 ans et qui devient traceur, qui était traité de l'extérieur par Caracol et quelqu'un a décidé de le traiter de l'intérieur en vision avec Golgoth. Donc j'étais très surpris parce que ça balayait quasiment tous les aspects qui étaient potentiellement en creux, voilà, qui étaient en creux en tout cas. Donc ça, c'était une première surprise. La deuxième surprise, c'est qu'effectivement ils ont mis la barre, ils ont essayé en tout cas de mettre la barre haut d'un point de vue stylistique. Toutes les nouvelles sont bien écrites, toutes les nouvelles sont d'un bon niveau stylistique avec beaucoup de maladresses, mais des maladresses parce qu'ils ont tous tenté de faire de la polyphonie, c'est-à-dire que quasiment tous les récits, il y a plusieurs voix. Qui dit plusieurs voix dit plusieurs styles. Donc maîtriser déjà plusieurs styles quand on est auteur professionnel, c'est difficile, mais alors quand on est écrivain débutant ou amateur, c'est encore plus dur. Donc il y a quelques maladresses, mais c'est quand même courageux et plutôt bien réussi la plupart du temps. Et puis en termes narratifs, il y a des bonnes choses, quoi. Donc ça, c'était la première surprise. Mais la chose la plus importante, ça a été que voilà, j'étais chopé au trip à des moments. Voilà, j'étais chopé au trip Et la nouvelle que j'ai décidé de... Et c'était, ça tombait bien parce qu'on était d'accord et tout ça, mais que pour moi est sortie en tête et sans difficulté, celle de Mélanie, c'est une nouvelle où j'ai pleuré plusieurs fois. Voilà. J'ai vraiment, à des moments, j'étais surpris, je me suis mis à pleurer, puis j'ai continué à lire, puis je me suis remis à pleurer, puis j'ai dû pleurer 3 ou 4 fois dans la nouvelle. Et voilà, quoi. C'est-à-dire que ça m'a ramené au livre et ça m'a donné quelque chose de... d'unique, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'expliqué cet après-midi, mais c'est très difficile à expliquer. C'est-à-dire que ce livre, il a eu un rayonnement très fort, etc. J'ai reçu énormément de lettres. Je vais être à 300 ou 400 lettres de lecteurs. Il y a des lettres très belles, il y a quasiment des déclarations d'amour, etc. J'ai des dédicaces à la table où les gens viennent, me disent ouais, j'ai adoré, ça a changé ma vie, etc. Tout ça est très touchant, mais pour la première fois, j'ai ressenti, sans qu'on me le dise, ce que le livre avait fait dans les gens. Voilà. Et c'est ça qui m'a le plus touché, c'est que j'ai compris quelle mémoire émotionnelle, viscérale, avait laissé ce putain de bouquin dans la tête des 70 personnes là, qui ont... Et ça, c'est un témoignage que je pourrais pas avoir. Je suis sûr que Mélanie viendrait me voir, elle l'a fait d'ailleurs, parce que je l'avais rencontrée avant. Elle est venue me voir en me disant j'ai adoré le bouquin, machin. Mais ça m'a absolument pas ému, en tout cas je me souviens pas du tout d'une émotion particulière. Parce que c'est un langage extérieur de commentaire sur le livre, tu vois. Alors que quand la personne empoigne le livre et utilise Caracol, Sauve, Golgoth, les réhabite, les repeuple et te montre à quel point ils sont attachés à ces personnages, à ces moments, à ce récit, à cette putain d'univers, là tu te dis mais putain c'est un cadeau incroyable, voilà. Et j'ai eu l'impression qu'on me file un cadeau que j'avais jamais eu, quoi. Voilà, c'était... Et pourtant je vous dis, il y a la BD, j'ai eu le film, j'ai eu je sais pas combien d'illustrations, j'ai eu plein de choses dont j'aurais pu éprouver un sentiment de cadeau et d'émotion très fort. J'avoue que j'ai jamais eu d'émotion sur les images. Voilà, et c'est la preuve, je pense que je suis vraiment pas un visuel, quoi. C'est-à-dire que toutes les images qu'on a faites m'ont jamais réellement ému, quoi. Voilà, je suis pas ému par ça. Mais là, par contre, ouais, j'ai été ému. Voilà. Donc c'est ça qui m'a touché, quoi.
Bah écoute, tant mieux.
Ouais, c'est vrai.
Au moins, le concours aura au moins servi à ça.
Ouais, ouais, ouais. Et très clairement, ça m'a donné envie d'attaquer le 2. Et ça, c'est un drôle de truc. Ça sera pas pour tout de suite, attention. Non, je pense mais ça m'a donné vraiment envie de.
Je pense que rien que pour ça, ça valait encore plus le coup, donc. Alors du coup, bah, je vais maintenant demander à Mélanie. Alors je vais pas. On pourrait commencer par voilà. Pourquoi s'être attaqué à ce concours? Mais je pense que Alain l'a expliqué. C'est voilà. Mais.
Alors je vais préciser un petit peu. Moi, ma première fanfiction de la Horde, c'est un article universitaire, en fait. La Horde du Contrevent, c'est un roman que j'ai découvert il y a 3 ans, parce que je suis une docteure en lettres classiques, et qu'avec des copains, on en avait marre qu'à l'université, il faille parler que de littérature dite sérieuse et respectable, et qu'on avait organisé un colloque sur l'influence de l'Antiquité dans la SF et la fantasy. Et on trouvait que ce qui serait intéressant, ce serait de faire venir aussi des auteurs. Donc on avait fait venir plein d'auteurs, dont Alain Damasio, et on avait lu leurs bouquins, ce qui est la moindre des choses. Et moi, j'avais choisi de faire ma communication sur la manière dont les représentations de l'âme dans l'Antiquité, chez Pythagore et chez les Épicuriens, avaient pu influencer les représentations de l'âme chez Philippe Pullman dans À la croisée des mondes, dans L'assassin royal de Robin Hobb et dans La Horde du Contrevent. Voilà. Si ça vous intéresse, si le thème vous intéresse, il y a un bouquin qui s'appelle L'Antiquité dans l'imaginaire contemporain, sur lequel je touche pas un centime. C'est juste, voilà, si ça vous intéresse, c'est paru chez Garnier, et voilà. Et donc, à cette occasion, j'avais 10 minutes avant de faire ma communication et mon papier, je vois un monsieur qui me dit « Ça va parler de quoi, au fait, ce matin ?» Et là, je me dis « J'ai vu sa tête sur Internet, c'est Alain Damasio. » Donc, j'étais très intimidée, parce que moi, d'habitude, je parle d'auteurs qui sont morts depuis très longtemps, et donc, je suis pas en train de parler dans des colloques devant l'auteur et de me dire je suis en train de dire n'importe quoi sur son œuvre, c'est une horreur, voilà. Donc c'était un peu intimidant, mais c'était très instructif parce que du coup bah, ça m'avait fait mieux comprendre certains aspects de la Horde, et ça se retrouve dans ce que j'ai écrit, en fait. Il y a des choses, ça vient de la dédicace que Alain m'a faite après ma communication, donc voilà, ma première fanfiction, c'était ça. Alors après, sur le plan de l'écriture, c'est très bête, je veux écrire depuis très très longtemps, j'ai soutenu ma thèse depuis moins d'un an, tant que j'étais en thèse écrire autre chose, c'était un peu compliqué. J'ai écrit des nouvelles après avoir fait ma thèse parce que j'étais dans une phase de deuil et voilà. Et puis je retrouvais des thèmes mythologiques parce que je connais bien ça. Dans la mythologie, il y a beaucoup de métamorphoses végétales, donc ça explique un peu aussi. Et j'ai des copains qui m'ont dit bah vas-y, essaye de faire des textes qui seraient lus par d'autres gens que ta maman. Et voilà, enfin c'est une démarche aussi banale et bête que ça. Bon, après, je pense qu'il y a peu d'auteurs pour lesquels j'aurais fait une fanfiction. Moi, chez Alain Damasio, le premier truc sur lequel j'ai fait la groupie, c'est pas la Horde, c'est la Zone, en fait. J'ai lu la Zone du Dehors avant, et quand j'ai lu la Zone du Dehors, j'ai fait oh, mais c'est exactement ce que je voulais écrire depuis le début, parce que c'est politique, et c'est lyrique, et c'est imaginaire épique. Et c'était la première fois que je lisais un truc où il y avait les trois, et je me suis dit, mais c'est génial, donc ça peut se faire. Donc voilà, c'était une lecture, une rencontre littéraire qui m'avait fait me dire que je pouvais écrire les choses que j'avais envie d'écrire. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Pourquoi j'ai choisi Step et Aoi et Yol? Step parce que donc les métamorphoses en végétal, c'est un motif imaginaire qui me plaît. Aoi parce que ça. Alors je suis sûre que tout le monde ici est fan de Caracol, sauf et Golgoth, comme tout le monde. Moi j'ai toujours préféré Aoi Nan. En tout cas pour du point de vue du style, ça a toujours été mon style préféré, celui d'Aoi. Et je me suis dit que si j'arrivais à en écrire un, ce serait celui-là. Et Yol, c'est leur fils, il est mentionné à une page de la Horde, donc c'est le petit détail. Mais il se trouve que juste après ce colloque-là, genre le lendemain quand je suis rentrée chez moi, j'ai découvert que j'étais enceinte de mon deuxième. Et mon deuxième fils s'appelle Sam Yol. Yol, en fait, la moitié de son prénom vient de la Horde, parce que tous mes enfants, ils ont des prénoms un peu fans comme ça. Voilà, donc... voilà, donc Yol, c'était... mais il s'appelle Sam à cause du Hobbit, hein. Enfin, c'est Sam Yol, quoi. Voilà. Donc c'était une façon de lui donner une voix aussi. Pour moi, c'était rigolo d'imaginer une voix au personnage de Yol, parce que, voilà, c'est...
D'accord. Et donc du coup, ouais, ce choix du passage était évident. Toi, Alain, effectivement, quand tu cites ce personnage, effectivement, une fois, enfin, pour toi, c'est quelque chose, effectivement, que tu imaginais déjà développer, peut-être aussi. Tu l'as dit dans le tome 2. Et du coup, là, de voir ce que Mélanie en a fait, c'est quelque chose que toi, tu aurais pu une piste vers laquelle tu aurais pu aller, ou bien.
C'est une piste sur laquelle je vais aller, quoi. C'est prévu. Donc c'est génial de le retrouver aussi, quoi, tu vois. Mais tu te dis, bon, t'as pas trop le choix en même temps. C'est-à-dire que à partir du moment où ils sont tous morts, sauf Sov et que les autres, tant pis, pour les spoils. Vous êtes morts pour les autres. Vous avez pas fini, tant pis pour vous.
Mais ils sont pas vraiment morts.
Non, ils sont pas vraiment morts. Et que les vifs restent là. T'as évidemment une potentialité de retour et de réincarnation des vifs, mais surtout t'en as très peu de vivants. C'est Aoi qui est vivante et qui décide très sagement, parce que c'est quand même une des plus intelligentes de la Horde, de revenir à Camboban pour survivre, et qui ramène Step, qui s'est transformé en bouleau, parce que vous savez que le bouleau est un des bois qui survit dans la Sibérie, quoi. Et on sait qu'ils ont fait un gosse, parce qu'elle était enceinte avant d'arriver à Nanska, et que ce gosse c'est Yol et qui va sortir. Donc t'as la potentialité, et surtout t'avais une potentialité qui était très belle et qu'elle a magnifiquement exploité, je trouve, qui était de ramener Step, d'où le titre Step Back, quoi, de le ramener à l'humain, de le ramener à l'humanité, ce qu'on appelle une rétromorphose, quoi, tu vois. Et ça, pour moi en tout cas, dans mon approche, ça pouvait être opéré que par Aoi et Yol, et notamment par son fils, quoi, qui lui va aller vers l'arbre, va aller voir son père et va le ramener. Cet amour, cet extraordinaire lien qu'il peut y avoir entre père et fils. Bon, moi, j'ai des enfants aussi depuis maintenant 8 ans, donc ça y est, je peux enfin parler des gosses. C'était une potentialité. Et elle l'utilise super bien. Mais elle a trouvé des idées que j'aurais pas trouvées, qui sont très très belles. Par exemple, l'idée que les premières manifestations d'humanité que Step génère, c'est à travers le vent qui passe dans les ramures, dans les frondaisons de l'arbre. Et ce vent-là, progressivement, crée des formes de sons. Ces sons, progressivement, créent des formes de phonèmes et ils commencent à parler, quoi. Et en fait, en travaillant l'écorce de l'arbre, en générant des trous, en entrelaçant les branches, on crée une architecture qui va l'amener progressivement à pouvoir parler, quoi. Et ça, c'est très beau. C'est une très belle idée, par exemple, qui est... qu'elle amène et que j'avais pas eu, quoi, tu vois, clairement. Et il y en a d'autres hein, qui sont. Mais je crois que je vais vous lire des passages quand même parce que ça, ça vaut le coup.
Avec plaisir.
Ouais. Alors, l'idée, elle est pas de moi. L'idée, en fait, je l'ai quand même piquée à Alain. L'idée, elle m'a été inspirée par la nouvelle qui s'appelle Sam va mieux. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu. Comme c'est peut-être moins énorme que La Horde, je préfère pas trop en dire sur Sam va mieux, mais en gros, il y a aussi un jeu sonore. En gros, j'avais envie de faire des jeux sonores et je voulais pas faire du caracol parce que ça m'intimidait. Et c'est un peu inspiré par Sam va mieux. Donc en fait, c'est aussi. ça vient d'ailleurs dans le corpus.
Ouais, ce que je vous propose, parce que c'est y a rien de plus terrible que de parler d'une nouvelle que personne a lu, et c'est le cas là. Donc je vais vous lire des passages. Ce que je propose, c'est que je lis un passage, après on prend des questions, je lis des passages comme ça, pas d'un coup quoi. Je lis des passages que j'aime bien en fait, voilà. Et après on vous laisse parler parce qu'on va pas monologuer, je pense que vous avez plein de questions. Donc c'est Aoui qui part. Et on démarre là-dessus. Après c'est de plus en plus émouvant en fait, vous verrez. Mais là je prends que le premier passage qui est peut-être pas le plus émouvant pour l'instant. Mais 6 ans plus tôt, quand j'avais débarqué avec ma bouture vivante à Cambobane, je m'étais prise à rêver, pour retrouver les autres, de tendre des filets, des collets dans le goulot du défilé, ou d'herpailler tout là-haut pour attraper peut-être leur boule de vif lorsqu'elles débouleraient des hauteurs de Norska. Des petites pelotes dorées pour faire jouer les chats. Je mettais tous mes espoirs dans ma compréhension amputée du vif, un peu béquillée par la science de Matsukaze. Je les guettais, les autres, par leur visage, plutôt la vision de leur être dans le crâne véramorphe. Je ne m'attendais pas à trébucher sur leur absence. Trébucher sur leur absence. C'était qui ? Caracol, sûrement, qui avait dit ça un jour. Sitôt sorti dans Norska, parce qu'ils essayaient de remonter à Norska, hein. Sitôt sorti dans Norska, sitôt senti sur mon visage la glace et la verticalité, un tacle d'avalanche me fit chavirer. Une avalanche statique, immobile, impitoyable. Comme cette vision autrefois, penchée au-dessus du siphon, tétanisée. Ce n'était pas l'arbre steppe. Ce fut sculpté dans le vent, une grande statue d'absence. Là, le flux se scindait, se diffractait. Yol, grelottant, se tourna vers moi. « C'est quoi, maman ? Pourquoi le vent, il fait des trucs bizarres ? Il y a un obstacle ? Tu crois que c'est un crâne ? Peut-être que c'est le crâne pour faire revenir papa ?»« Non, chaton, ce n'est pas un crâne. C'est eux, c'est les autres. Il faisait tellement bloc face au vent, tu comprends, que le vent s'arrête encore sur leur passage. Cette balafre aveugle et debout, c'était la mémoire tangible d'Alme, autour de laquelle l'air faisait même des détours, ourlait des contours. À peine plus loin, se dressait, dessinée évidente par les errances, la colonne ville de Silanfre. Cette inflexion du vent autour du manque, qu'il esquissait par effleurement et attaque, sifflait une mélodie mémorielle. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez, mais en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment dans l'avalanche où ils sont morts, hein, où Silanfre est mort, etc. Le vent, quand il dévale, il contourne quelque chose de vide, et on ne comprend pas ce qui contourne, mais c'est la mémoire de Silanfre encore debout, en train de se battre, quoi. Et sa mémoire est comme figée, abstraitement, là-dedans, et le vent, il s'en souvient, et il contourne par respect, en quelque sorte. C'est très beau, c'est un très très beau moment. J'ai dû chialer la première fois ici. Voilà, mais je vais vous laisser poser des questions, parce que c'est plus intéressant. Peut-être.
Voilà, est-ce qu'il y a des questions, effectivement ? Moi j'en ai une, enfin, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais dans le texte, c'est récurrent. Il y a une science de l'allitération qui est phénoménale. Est-ce que ça a été beaucoup de travail ou ça vient spontanément ou...
Ouais, j'aime bien faire des allitérations, c'est une des choses que j'aime bien écrire. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais quand je joue sur les sons, c'est un peu comme ça que ça me vient. Voilà. Et puis, il y avait le plaisir de faire des. Alors, le mot, il m'est venu après. Je me suis dit qu'il faudrait appeler ça des éologismes. Alors, il y a le plaisir de faire des éologismes. C'est.
Ça, Alain avait déjà pas mal contribué.
Et exactement, mais justement, ça participe de l'hommage.
Bien sûr, ouais, tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans beaucoup de textes. Effectivement, cette volonté de créer du sens à partir de mots qui veulent pas forcément dire ce qu'ils veulent dire habituellement, etc. Et puis Et puis, j'ai oublié ce que je voulais dire, donc on va passer à autre chose. Non, je voulais dire que... parce que là, effectivement, on parle d'un texte que vous n'avez, et pour cause, pas lu. Mais je voulais donc le dire... Enfin, je ne sais pas si Mélanie en est d'accord, mais si elle l'est, on souhaiterait éventuellement mettre le texte en ligne sur le site de Folio pour que, effectivement, les gens puissent le découvrir. Et donc, voilà, comme ça, vous pourrez après vous faire votre idée sur le texte par vous-même. Si Alain, si, est-ce qu'il y a des questions? Donc, non, toujours pas. N'ayez pas peur. Hein. Ah, bravo. C'est là que je me transforme en hôtesse micro. Allô, allô.
Je vais essayer de ne pas poser une question piège, mais tout simplement, je me demandais si vous envisagez peut-être d'incorporer des éléments au tome 2 que vous avez lu dans cette nouvelle. Voilà, tout simplement.
Bien sûr, bien sûr. Il y a des idées qui sont super et qui peuvent être utilisées, tu vois. Donc je m'interdis absolument pas de le faire, quoi. Après, bien sûr, je demanderai aux auteurs, je demanderai s'ils sont d'accord, je les remercierai, et après, c'est avec eux, quoi, tu vois. Mais il n'y a aucune raison de ne pas les utiliser quand elles sont belles, ouais, évidemment. Il y a des trucs magnifiques. Hein. Ouais.
J'enchaîne sur une autre question par rapport au concours lui-même et au format du concours, et peut-être aussi, du coup, pour Alain Damasio aussi. Est-ce que le numérique aurait sa place sur des concours comme ça, sur des formats? Parce qu'il y a un gros travail sur la langue, le format, peut-être pour les prochains, mi-numérique, mi-papier. Bon, voilà, une expérience... 70 participations, j'espère qu'il y aura peut-être un futur concours avec encore plus de monde.
Alors, qu'est-ce que vous appelez numérique en fait exactement?
Par exemple, je ne sais pas, la mise en ligne de cette nouvelle pour la rendre accessible, est-ce que ça ne vous donne pas des idées de concours autour, alors peut-être avec les réseaux sociaux, peut-être sous une forme numérique? Vous avez dit en fait en introduction de cette présentation que vous ne vouliez pas faire un énième concours de nouvelles ou un énième, mais en même temps, la fanfiction s'est très développée aussi. Est-ce que vous ne voulez pas creuser du côté d'autres formes?
Mais en fait, alors, on était parti sur un concours de nouvelles avec un certain nombre de signes, etc. Il se trouve que quelqu'un a fait ça. Il a fait un jeu, en fait, une espèce de livre dont vous êtes le héros, mais virtuel. Donc il faut cliquer, faire des choix, des bons choix, des mauvais choix. Il se trouve juste que, alors bon, déjà, ça correspondait pas à notre format. En plus, il se trouve juste qu'il a envoyé il nous a envoyé le lien. Enfin, il avait un projet très ambitieux et finalement, il n'a pas pu aboutir. Donc il a fait quelque chose. Il nous a envoyé le lien il y a une semaine, c'est-à-dire genre 2 mois et demi après la fin des. Donc, mais cela étant, alors puisqu'on en parle, et bravo. On va mettre sur Facebook, merci, sur Facebook, on va mettre le lien pour que ce jeu puisse être aussi partagé. Et c'est très chouette. Moi, je suis mort tout le temps. J'en connais qui prétendent qu'ils sont allés au bout.
Moi, j'ai réussi du premier coup, mais bon, c'est normal.
Menteur. moi, je crois qu'Alain ment sur ce coup, mais bon.
J'ai fait une seule erreur, c'est que j'ai... à un moment donné, il y a les premières rafales et... Et je respire à travers le masque de con, ce qui est possible, contrairement à ce qu'il dit. Et je perds des points de vie parce qu'il considère qu'il faut respirer en tournant le dos au vent. Je pense que c'est un contresens sur le livre, mais j'ai accepté. Voilà. Non, mais le reste, j'ai réussi, j'étais au bout.
Donc pourquoi pas alors, on ne fera pas des concours tous les ans, parce que l'idée, ce n'est pas de le galvauder non plus, mais pour les 20 ans, pourquoi pas trouver d'autres idées, effectivement, ouvrir sur le numérique, sur d'autres modes d'expression. C'est vrai qu'au final, il faut voir aussi qu'organiser un concours comme ça, on se dit si on reçoit 500 textes, faut qu'on les lise. Mais si en plus, du coup, il y a d'autres formats, d'autres choses, ça devient compliqué. Parce que mine de rien, quand on dit 70 textes, c'est des textes qui faisaient une vingtaine de pages dans l'ensemble. Donc 70 fois 20, et il faut les lire, quoi. Ça prend du temps et voilà, donc l'ouvrir à d'autres médias un jour, faire autre chose autrement, pourquoi pas.
C'était juste un clin d'œil par rapport aux travaux, aux divers travaux de, d'Alain sur le numérique, des jeux, ou autre, le côté transmédia possible.
Oui. Après, ouais, mais c'est, ouais. Non, ce qui est étonnant sur ce, par exemple, sur ce jeu dont vous êtes le héros, moi j'y ai joué quand j'étais petit, mais sauf qu'on se reportait à la page, etc. Là, avec le numérique, c'est beaucoup plus fluide, et t'as immédiatement le résultat, et puis t'avances. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que c'était bien rédigé, tu vois. C'était textuellement et stylistiquement de tout à fait bon niveau, tu vois. Donc t'as le plaisir de lire, t'as le plaisir d'être inclus dans une aventure, et t'as évidemment le thrill comme ça de savoir si tu vas aller au bout, réussir ou pas, quoi, tu vois. Et donc je me suis dit, putain, faire ça avec effectivement des vrais écrivains, des gens qui savent écrire, et la personne qui l'a fait sait écrire, je sais pas si c'est un homme ou une femme, j'ai trouvé ça super intéressant, voilà. Et en plus, bah, ça te pousse à la lecture, ça te pousse à t'accrocher, ça te pousse à avancer, donc des gens qui n'auraient pas forcément envie de lire ou que ça accrocherait pas nécessairement, là ils vont être happés, je pense à des publics relativement jeunes et qui vont préférer faire un jeu vidéo. Là c'est purement textuel, c'est un vrai jeu, mais ça te donne envie d'avancer, quoi. Tu vois, et c'est dans ce cadre épique d'aventure, est-ce que je vais survivre, pas survivre, c'est du survival, quoi, mais... Et je me dis, waouh, ouais, là, en format numérique, il y a un sens, ça prend du sens de le faire et ça peut amener d'autres gens voilà, à accrocher avec l'univers. Donc j'ai trouvé ça cool. Et en plus, je trouve qu'il gère bien le rythme. C'est-à-dire que c'est des blocs de 5-6 lignes maxi, tu vois. Donc t'es toujours dans un rythme intéressant. Donc ouais, il y a des choses à faire, je pense, vraiment.
Mais bon, cela étant, s'il était arrivé dans les délais, il aurait sans doute pas gagné le concours parce que justement, nous, on s'était placé sur un.
Il aurait gagné. Non.
Sur un format plus traditionnel, on va dire. Mais il aurait sans doute eu un truc genre prix spécial ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est évident. Maintenant, cela étant, on le met en ligne sur les réseaux sociaux. C'est aussi, c'est aussi la preuve qu'on reconnaît ça. Mais en plus, c'était vraiment l'idée un peu dès le départ, quoi. C'est-à-dire de se dire effectivement... On va essayer de faire vivre ça autrement. Aujourd'hui, la lecture, elle se fait certes. Nous, on est une collection de papier. On a quelques ouvrages disponibles en numérique. On va pas s'interdire d'aller vers vers d'autres modes de communication. Et les réseaux sociaux en ont été une part. Et visiblement, enfin, Mélanie nous disait qu'effectivement, elle avait eu connaissance du concours grâce à Facebook, par exemple. On s'interdit rien. Et puis, si on refait quelque chose dans 5 ans, peut-être que, ça va tellement vite, il y aura encore d'autres idées à choper et on se les interdira pas. C'est l'avantage. FullUSF, c'est une collection où ça bouge tout le temps. On a toujours plein d'idées. On s'interdit rien. En plus, j'ai la chance d'avoir un marketing qui tu peux leur dire n'importe quelle idée saugrenue. Ouais, d'accord, t'as raison. Ouais, on va essayer. Donc c'est plutôt confortable. Donc pourquoi pas. Je voudrais poser avant que tu relises un morceau de texte, je voudrais poser une autre question à Mélanie. Du coup, il y avait une envie d'écriture avant. Et maintenant, quid de l'envie d'écriture après?
Alors, moi, j'ai envie d'écrire depuis que je sais tenir un stylo. Simplement, j'ai fait des études très longues. Qui font que j'ai écrit des choses sèches, pas des choses comme j'avais envie. Oui, j'ai beaucoup d'envie d'écriture. J'ai des choses qui sont déjà à peu près finies dans des genres assez différents. J'ai des pages et des pages et des pages et des bouts de chapitres dans de la SF fantasy. J'ai des nouvelles, j'ai pas mal de choses. Évidemment que ça me donne envie d'aller au-delà de, encore une fois, les faire lire à ma maman et à mon mari, quoi.
D'accord. Alain, un extrait ou tu as quelque chose à ajouter?
Non. Il y a d'autres questions, j'imagine, ouais. Non, ouais.
Ah. Alors, attends. Bonsoir. Bravo pour votre livre qui déchaîne les imaginations, que ce soit par la nouvelle de Mademoiselle. Et on a vu sur Internet d'autres productions ont été insufflées à la suite de ça. J'ai lu qu'il y avait eu un jeu vidéo qui avait été lancé mais qui finalement n'aurait pas abouti. J'avais vu éventuellement un film, alors je sais plus exactement, peut-être avec Luc Besson, ou une série animée. Enfin, les gens ont hâte de voir d'autres formes découler de votre livre. Donc, je profite de votre présence pour savoir un petit peu, à ce jour, quelles sont les productions en cours et qu'est-ce qui est tombé à l'eau.
Ouais, donc il y a eu plein de projets et comme tous les projets, il y en a qui avortent et il y en a qui vont au bout. Dans les projets avortés, il y a le film d'animation de la Horde du Contrevent qui s'appelait Wind Walkers, qui était développé par une, pas du tout par Luc Besson, mais par une boîte à Aix-en-Provence qui s'appelait Forge Animation, qui avait été créé, je n'ai pas envie de dire spécialement pour le livre, mais qui avait été créé en tout cas pour développer ce projet. Malheureusement, ils ont développé pendant 5 ans, ils ont, je pense qu'ils ont fait des choix un peu malheureux, et ça n'a pas abouti, donc la boîte a fermé. Voilà, donc la chance de le voir émerger de ce côté-là est fermée. Parallèlement, ils avaient voulu, parce qu'ils avaient un gros projet transmédia, ils voulaient à la fois sortir le film d'animation et le jeu vidéo. Donc il y avait une filiale d'une douzaine de personnes qui avaient développé un jeu vidéo de remontée en contre face au vent. Ils ont prototypé quelque chose, mais ça n'a pas séduit non plus le marché, on va dire. Et du coup, la boîte a été fermée également, et donc les deux projets ont été fermés. Et parallèlement, donc, il y a une bande dessinée qui est en cours, qui a démarré, sur laquelle il y a une quinzaine de planches déjà qui sont faites, qui sera éditée chez Delcourt et qui va sortir, je crois, en octobre. Et qui est dessinée par Eric Enino, qui est devenu un ami et qui a longtemps habité Marseille. Maintenant, il s'est excentré à Paris et qui avance et qui fait un très beau boulot. Voilà. Ouais, excentré à Paris, parce que le centre du monde est à Marseille maintenant. Et... Voilà, donc c'est ça les projets, j'ai envie de dire, essentiels. Après, on a en projet quelque chose qui nous tient énormément à cœur et qu'on n'a pas réussi à aboutir jusqu'ici, c'est qu'on veut faire traduire ce livre en anglais. On voudrait l'éditer en anglais. Il a été édité en italien, il a été vendu en Italie, et ça fait 11 ans qu'on n'arrive pas à le passer de l'autre côté de l'Atlantique. Donc on a fait un choix avec mon éditeur Mathias Echenel, qui est caché sur le pouf, là. C'est de dire on va le traduire, on va commencer à le traduire. Donc j'ai trouvé un traducteur qui est quelqu'un qui est un véritable poète, qui est américain et qui fait un travail magnifique et qui traduit tranquillement et en collaboration permanente avec moi, et ça c'est super agréable. Il souffre beaucoup sur Golgoth et Caracol, hein, c'est vraiment les deux personnages sur lesquels il souffre, mais il avance bien et on va, je pense que je peux en parler, Mathias, ouais, il baisse la tête donc c'est bon, on va lancer un financement contributif en mars sur la traduction pour récolter les 20 ou 25 000 euros dont on a besoin pour que ça soit traduit, parce que La Volte, comme vous le savez, est une toute petite maison d'édition qui édite beaucoup de livres extraordinaires et qui perd beaucoup d'argent par conséquent, et on n'a pas les moyens aujourd'hui de financer la traduction, et on veut la financer, enfin pas seulement la traduction mais l'édition, hein, faut être clair. C'est-à-dire que c'est pas simplement traduire, c'est aussi trouver l'éditeur derrière. Et on va lancer ça en mars, donc je vous en parle et on espère que vous nous aiderez, quoi, voilà, pour essayer de porter ça. Donc ça c'est un autre projet, et on espère, si jamais ce financement fonctionne bien, arriver peut-être justement à un livre numérique enrichi, c'est-à-dire vraiment le livre numérique en français et en anglais, et peut-être enrichi par du son ou peut-être enrichi par les images. Et au-delà, un peu le Graal pour moi depuis longtemps, c'est le livre audio de la Horde, c'est-à-dire que pour moi c'est un livre qui est fait pour être dit, pour être entendu. C'est un style très, très oral et très physique, et j'aimerais, voilà, qu'on le fasse en vraie polyphonie avec une dizaine d'acteurs ou une douzaine d'acteurs, et qu'on ait le vrai livre audio de la Horde. Ça, c'est aussi un rêve en perspective. Voilà, Mais après, il y a d'autres projets qui vont se générer. Je sais qu'il y a un projet de pièce de théâtre qui est en cours, assez étonnant, une sorte de pièce muséographique. C'est assez complexe, mais je pense que ce sera super bien. Et il y a sans arrêt, voilà, des gens qui m'écrivent pour me dire... Bah, je suis en train de travailler là-dessus. Et bon, moi, je dis oui à tout, hein, parce que je trouve que voilà, une œuvre, elle est faite pour aider les autres à créer. Et si ça aide les autres à créer, bah, c'est extraordinaire. Voilà, donc, voilà. Question, je lis un petit passage quand même. Donc là, il passe la porte dure à l'envers, parce qu'il redescend d'aval. Donc ça, c'est une très belle idée aussi de Mélanie, je trouve. C'est qu'elle a décidé, au lieu de les faire remonter à Mont, il redescend l'aval, et du coup, en redescendant l'aval, il retrouve comme ça des moments clés du roman, et c'est, je trouve, très émouvant. Et là, c'est le fils qui parle, c'est Yol. On n'a pas pu s'arrêter avant l'écluse. Un moment, papa s'est courbé comme un bateau, et nous, on s'est soudés à lui. Et là, plus d'amarre, plus d'encre. On a chevauché la vague folle du vent, bus et soubresaut. Moi, je jouais à être un corsaire fréole, et puis on a déboulé tout détrempé d'air, les cheveux dégoulinants et tout, à travers la porte ouverte. Et après, un autre moment que j'aime bien aussi. Donc, ils arrivent à Altitcho. Je les sens tout près, juste là, dans Altitcho. Désemparés et pugnaces. Un coup de choune, et ils nous bondiraient dessus. Je crois entrevoir dans un coin de couloir une statue bordélique de Babil fou, là où Caracol a déclaré forfait. Ou une gargouille beuglarde qui nous balancerait à travers la gueule le jet guttural de Golgoth. Pietro aussi, vertical évidemment. Ou aux abords de la tour d'Aer, croisée fugitive, à la jonction des briques, des statuettes d'Orochi, d'Erg, de Sov. Il dirait quoi, papa, s'il reconnaissait Sov ? Il dirait « Je vous aime ». Voilà, je vous en fais un autre que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est à la toute fin c'est à la fin du récit. Ils ne trouvent plus la trace de Step. Ils sont dormis. Ils ne trouvent plus la trace de Step ni de Yol, d'ailleurs. Dehors, un fouillis de feuillets, d'écorce, de branches. La terre a été labourée, creusée. L'air aussi, remué, foyé, crevassé. Les rochers arrachés. Ces entailles, c'est Step. Des lettres s'égrènent sur les nervures minces des feuilles. Les bâtons et les cailloux épellent sur la page du paysage des mots. Des phrases ont été inscrites à grand renfort de doigts et de racines sur le sol martyrisé. Dans l'air, des pistils flottent en suspension, ponctuent les vers. Yol rompt le silence. Il surgit en dansant d'une expiration et criant à tue-tête. « Maman, maman, papa, il a appris à dire step, t'as vu ?» Et après, donc je finis là-dessus, papa a terminé son poème et ensuite il est sorti de sa cachette parce qu'il avait plus peur et plus froid. Ou peut-être c'est le poème qu'il a sorti. C'est pas très important. Pour l'instant, il n'y a que moi qui l'ai trouvé, alors j'ai gagné. Il a la voix rauque, poisseuse de sciure et quelques consonnes en moins. Il a des drôles de veines en cercle sur le dos et les orteils encore un peu profonds plantés. Il a les cheveux en jardin de fougères, comme elle racontait maman. Voilà, après je vous dirai la fin.
Je crois que déjà
c'est bien écrit cette
connerie. Ouais, ça vous donne une idée de, voilà, du style quand même.
D'autres questions alors du coup. Ouais.
Oui, une question pour Mélanie. Justement, en parlant de style, est-ce que vous avez d'autres auteurs contemporains qui vous inspirent, que ce soit dans le domaine de la science-fiction ou thriller, n'importe.
Alors, dans le domaine de la science-fiction française, je suis sur plein de monde d'ici, j'ai Damasio et Jaworski qui sont tout en haut du Panthéon. Totalement pas original, je sais. J'aime aussi beaucoup le style de Nathalie Do dans un genre plus... dans un féminisme... une féminité, je sais pas, un lyrisme plus poétique. Et puis après mes inspirations stylistiques, elles sont moins contemporaines. Moi, je suis un peu une antiquisante, donc j'en lis plein du contemporain, mais je me retrouve toujours quand je fais semblant de citer Caracol, c'est Éluard que je cite. Voilà, moi, je me suis beaucoup nourrie d'Éluard, d'Apollinaire, de ce genre d'écrivain-là aussi. Et alors, j'adore les écrivains incompréhensibles. J'adore Mallarmé, par exemple. Je trouve ça extraordinaire et je suis en admiration totale devant Mallarmé. Donc, j'aime bien la littérature musicale comme ça. Voilà.
Combien de temps pour écrire ? Quelle était la méthode ? Est-ce que vous avez fait... tout d'un trait l'écriture ou repasser après dessus voilà.
Alors non, j'y ai passé des heures et des heures et des heures et des heures. Au début, je voulais faire une espèce de jonction. Je voulais qu'ils aillent jusqu'au bout du bout. Je voulais qu'ils aillent en extrême aval et qu'ils fassent une espèce de haricot magique qui serait remonté jusqu'à Sauve. Et dans le format, enfin, ça marchait pas. Je sais pas, ça allait pas. Donc j'ai vu moins loin. J'en ai écrit un milliard de versions et j'ai passé beaucoup beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup hésité pour ce que je voulais écrire. La seule chose avec laquelle j'hésitais, c'était d'imaginer la scolarité de Sauve. Ça m'aurait plu. Mais c'est mon côté prof, je pense, et traumatisé de la prépa qui se serait bien accommodé de ce genre de choses. J'ai pas hésité longtemps du tout avant de trouver ce sur quoi je voulais écrire. Après, j'ai beaucoup beaucoup balbutié. Non, j'ai passé vraiment longtemps.
Pour la suite de ma question, moi je demanderais bien, je sais pas comment écrit monsieur Damasio et je me demande si pour aboutir à des styles assez proches dans un même univers, est-ce que finalement vos méthodes d'écriture se convergent ou pas ? Je serais curieux.
Ah, j'en sais rien, mais. Moi, je pense que de toute façon, la clé, c'est le travail. Quoi. De toute façon, le travail est une... On ne le dit pas assez, mais sur la Horde, les gens disent ouais c'est incroyable machin, mais ils oublient que j'ai passé 3 ans en Corse tout seul à écrire ce putain de bouquin quoi, tu vois. Et quand je dis tout seul, c'est à dire que j'habitais effectivement une maison de 30 mètres carrés au milieu du maquis à 1 km d'un village qui a 32 habitants en hiver, et je passais 3 semaines tout seul par mois, tu vois, et 10 jours avec les gens, et j'avais un seul ami, c'était le postier, et voilà quoi, tu vois. Donc derrière, à un moment donné, t'arrives à un degré de peuplement, un degré de folie, un degré de connaissance et d'immersion dans ton style qui fait que ouais, ça finit par sonner vraiment juste parce que tes seuls amis, c'est tes personnages, quoi, tu vois. Donc quand elle dit qu'elle travaille, oui, ça se sent. De toute façon, ça se sent dans le style, ça se sent dans le travail des allitérations, des assonances, voilà, et on sent que ça y est, Yol, en tout cas dans ce texte-là, Yol, le langage de Yol, le langage de Aoi, il a été différencié, il existe comme... il existe habité, tu vois. Et ça, tu l'obtiens qu'à partir du moment où ton degré d'immersion a été suffisant. Tu vois, c'est pas juste de la technique, c'est de l'immersion, c'est de la solitude, et c'est du travail. C'est vrai que moi, quand j'ai attaqué la Horde, il faut savoir que je suis reparti à zéro. J'ai pris les bouquins, j'ai pris le Grévis, le bon usage du français, 1600 pages, tu vois. J'en ai lu, j'ai pas lu les 1600 pages, mais j'ai bien lu 400 ou 500 pages quand même. C'était assez lourd. J'ai pris le dictionnaire de poétique et de rhétorique qui fait à peu près la même taille. J'ai lu les 120 pages sur les consonnes, les 80 pages sur les voyelles. J'ai réappris comment on reprononçait chaque consonne, chaque voyelle, tu vois. Tous les sonogrammes, toute la technique, toutes les constellations de consonnes. Enfin, c'est du boulot de fou, tu vois. Et après, tu t'apprends tout ça techniquement. Et après, t'écris, tu l'oublies. Mais tu l'oublies parce que c'est dans ton sang, quoi, tu vois. Et tu l'oublies parce que, comme Federer, il oublie ce que c'est qu'une volée de revers des croisés amortis, tu vois. Il n'a pas besoin de voilà, dans sa tête, de réfléchir, je vais faire une volée. Voilà, c'est instinctif. Et toi, quand tu es dans le jet, parce que ce qui compte, c'est le jet est extrêmement important. C'est-à-dire le premier jet, c'est quelque chose de fondamental dans la rythmique d'une phrase, dans l'énergie d'une phrase. Quand tu rates le premier jet, tu mets un temps fou à remonter la phrase et pour aboutir à quelque chose qui est généralement pas bon. Si ton premier jet, il faut qu'il ait cette puissance sensuelle, c'est parce que dans ton sang, t'as accumulé comme ça une perception phonétique, une perception rythmique suffisamment forte pour que ça jaillisse, tu vois, avec... Donc le travail, tu vois, c'est on le dit pas assez, quoi, tu vois. Après, on aime bien, c'est comme les mecs à l'école, tu sais, les polars à l'école qui ont 19 sur 20, puis qui disent toujours, j'ai pas bossé, tu vois, et qui se la pètent, c'est cool, non, j'ai à peine révisé, puis j'ai 19. On sait que c'est pas vrai, moi je frimerai pas, j'ai bossé comme un dingue, tu vois. La Horde, c'est un boulot de titan. Une fois, j'avais évalué, c'était 5 ou 6 000 heures de travail, quoi, tu vois, ce bouquin, quoi. Et quand vous voyez des livres qui sortent, la plupart du temps, il faut le dire, mais pour des raisons économiques. Les gens, ils mettent 3 mois, ils mettent 6 mois à l'écrire, au mieux, ils mettent un an à l'écrire, un an densément à l'écrire, c'est rare. Moi, je connais très peu de gens qui dépassent l'année de travail sur un livre, tu vois. La Horde exceptionnelle pour ça, parce que j'ai passé 3 ans, voilà. Et quand je dis 3 ans, c'est qu'avant, il y a aussi 4 ans dans le Vercors, où j'ai accumulé des choses, j'ai accumulé du matériel, les personnages se sont inscrits, m'ont habité. Donc, quand je suis arrivé en Corse, j'avais déjà toute la force, tu vois. De la mémoire, de espèce d'implantation intérieure de l'univers. Je savais déjà énormément de choses sur les personnages, tu vois. Donc quand j'ai démarré, j'arrivais avec mon barda déjà bien, tu vois. Et ça, c'est voilà, tu vois, là sur les furtifs, j'arrive avec quasiment 10 ans, tu vois, mais 10 ans entrecoupés, tu vois. Mais pendant 10 ans, l'univers des furtifs, il a vécu en moi. Donc quand je vais démarrer, je suis dedans, quoi, tu vois. Et les mecs vont dire, putain, c'est incroyable, l'univers, il est vachement. Bah ouais, mais ça fait 10 ans, tu vois, que ça vit en moi, quoi. Donc à un moment donné. Ça finit par acquérir une forme de mémoire, d'évidence, de présence, quoi, tu vois. Qui est, et je pense que tu fais un bon livre comme ça aussi, quoi, parce que tu accumules en amont énormément de matériaux qui... Tu vois, alors si tu les accumules juste 2-3 mois avant, et ben, ils n'ont pas le temps de sédimenter, ils n'ont pas le temps... Moi, je dis toujours, l'art, la création, c'est végétal, quoi, tu vois. C'est un terreau, et au début, le terreau est là, et il pleut, et il pousse rien, tu vois, il pousse rien. Il arrête pas de pleuvoir, tu dis, mais je comprends pas, il se passe rien, tu vois. C'est dans la terre, et ça, tu vois, et à un moment donné, tout sort. Tout sort d'un coup, les arbres, les fleurs, les feuilles. Parce que c'est un long travail d'imprégnation, mais très souterrain. Dans l'inconscient, il se passe énormément de choses. Et on ne mesure pas à quel point c'est important, qui vont ensuite... Donc voilà, donc je pense sur la création. Elle ne le dit pas, Mélanie, mais ayant travaillé énormément sur l'univers de la Horde, elle avait cette sédimentation et ça se sent, tu vois. Et par rapport à d'autres récits qui sont bien foutus, moi, je sens que ça vient de beaucoup plus loin, ce qu'elle a fait, tu vois. Et je l'ai pas vu, c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai lu sa nouvelle et à la fin j'ai vu Mélanie machin, je me suis dit attends mais cette fille je la connais, celle qui, tu vois, mais je savais pas, tu vois, j'ai lu le truc et je sentais que ça venait de loin, tu vois, qu'il y avait une puissance qui pouvait pas venir de juste d'avoir bossé ça 2 mois avant, tu vois, ça vient de beaucoup plus loin dans sa tête et dans son cœur et dans, tu vois, à mon avis, voilà.
Merci beaucoup.
Justement, on parle du fait que vous allez écrire sûrement la suite de La Horde ou Les Furtifs. Et j'aimerais savoir, justement, après avoir sorti un livre avec qui a eu autant de retentissement que La Horde, on parle de 150 000 exemplaires, est-ce qu'il n'y a pas une peur de la page blanche? Parce que là, on parle de mûrir le projet pendant 10 ans, mais est-ce que c'est aussi repousser le fait de passer à l'acte?
Moi, je me suis rendu compte d'une chose, et ça, c'est fou, c'est que... Bon, La Horde a super bien marché, etc. Et ça aurait dû me pousser à écrire, tu vois. C'est-à-dire que La Horde, je le termine en 2004 quand même, tu vois. Donc ça fait 11 ans que j'ai fini La Horde. Hein. Et j'aurais dû, après ce succès-là, ça aurait dû me pousser, au contraire, sachant tout l'électorat qu'il y avait, etc., me pousser à écrire et enchaîner. Et je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, tu vois. Ça ne me servait à rien parce que le moteur intérieur n'était pas prêt et j'étais pas prêt, tu vois. Et Les Furtifs, j'ai cru être prêt très vite. Et en fait, j'étais absolument pas prêt. J'étais pas prêt parce que j'ai eu deux filles. J'étais pas prêt parce que ma vie de famille a été bouleversée. J'étais pas prêt parce que je pense que j'avais un cycle collectif et, à faire en création et que j'ai fait à travers le jeu vidéo, que j'ai fait à travers la création radiophonique, que j'ai fait à travers le scénario justement de Windwalker, ce que j'ai fait à travers beaucoup de travail collectif que j'ai mené depuis 8 ans et dont j'avais besoin pour m'alimenter, etc. Là, je sens que ça y est, je suis prêt. Je suis prêt à faire Les Furtifs. Et pourquoi je suis prêt, je pourrais pas te le dire exactement, c'est simplement quelque chose que tu sens quand t'es auteur. T'as une maturation qui est suffisante et tu sens que c'est le moment. C'est-à-dire, moi je le sens personnellement au moment où tout le monde me fait chier, quoi. Tu vois, j'ai envie d'envoyer chier tout le monde. J'ai plus envie de bosser en groupe et tout le monde me fait chier, j'ai juste envie d'enfermer dans une grotte et d'écrire, quoi. Tu vois. Et mes seuls amis, j'ai envie que ce soit mes personnages, tu vois. Et quand j'arrive à cet état-là de rejet du monde, de misanthropie, je sais que je suis prêt, tu vois. Et c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Et quand je suis parti en Corse, j'étais dans cet état-là, quoi, tu vois. Et du coup, alors les gens me disent, tu vois, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois, en me disant, mais est-ce que t'as pas peur avec tout le monde qui t'attend? J'ai non seulement pas peur, mais ça m'aide pas non plus, quoi, tu vois, ça sert à rien dans les deux sens, tu vois, et je pense que si ça me pousse à écrire ou si ça me faisait peur, je serais plus un écrivain, en fait. Je crois profondément à ça. C'est-à-dire que je crois qu'un livre qui vient pas des tripes, qu'un livre qui vient pas d'une nécessité intérieure ne mérite pas de sortir, quoi, tu vois, et tous les livres qui sont appelés par une attente d'un public ou machin, je crois que c'est pas des bons livres ou je crois que c'est pas une bonne motivation d'écriture. Voilà, moi j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir et qui me demandent des conseils d'écriture. Là, récemment, j'ai encore quelqu'un qui a fait le déplacement à Marseille pour me demander. Et je lui ai dit, le simple fait que tu me demandes quelque chose, c'est déjà un mauvais signe, tu vois. Je lui ai dit, je recitais Rilke parce qu'on n'a jamais fait mieux que l'être un jeune poète de Rilke là-dessus. Mais Rilke, tu vois, le gars lui envoie, c'est génial sur Rilke parce que Rilke a 27 ans quand il écrit. Et le mec qui lui demande des conseils, il a 24 ans, tu vois, c'est pas Rilke à 70 ans qui donne des conseils à un mec à 20 ans, hein, tu vois, ils ont 3 ans d'écart, mais la maturité de Rilke à ce moment-là est déjà exceptionnelle. Et Rilke, il dit au gars, vous m'envoyez vos poèmes, vous me demandez s'ils sont bons, vous l'avez déjà demandé à d'autres, il lui dit, quoi. Il lui dit, je vous demande de renoncer à tout ça, quoi, tu vois. Il dit, je vous demande de relancer à tout ça. Il dit, il y a une seule question que vous devez vous poser. Et cette question, vous devez la poser. Il dit, Stilste, Stunde, Irornard, tu vois. Il leur dit, dans l'heure la plus calme, la plus silencieuse de vos nuits, à un moment donné où tu es absolument seul, où rien peut te perturber, et tu te poses la question, dois-je écrire, quoi, tu vois, dois-je écrire? Et est-ce que je peux vivre sans écrire? Est-ce que je peux continuer ma vie sans écrire, quoi, tu vois? Et si la réponse est oui, dans le calme absolu de la nuit, sans personne autour de toi, c'est une question que tu te poses à toi-même et que tu réponds à toi-même. Si la réponse est oui, alors mets en ordre toute ta vie pour pouvoir écrire. Et toute ta vie familiale, amicale, professionnelle, en couple, tout ce que tu veux. Tu te démerdes, tu mets en ordre ta vie, quoi, tu vois, et t'écris. Et moi, quand je suis arrivé sur La Horde, et ça, les gens ne le savent pas, j'ai pas eu d'avaloir, j'ai rien eu. Je sortais de la zone d'or, j'avais eu 500 lecteurs et c'était tout, quoi, tu vois. Et j'ai autofinancé la totalité de La Horde. Et ça, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais l'équivalent de, allez, on va dire 30 000 euros. Et je pouvais acheter un chalet dans le Vercors, et je le vois encore, ce chalet que j'ai pas acheté. Et ben, j'ai pas acheté le chalet, et je suis parti en Corse, et j'ai écrit pendant 3 ans, et j'ai consommé tout le fric que j'avais accumulé, et que je m'étais battu pour accumuler, pour pouvoir écrire ce livre, tu vois. Et ça, c'est extrêmement important, et peu de gens le font, ça, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai assez de ronds pour faire Les Furtifs aussi, tu vois. Et ça, c'est précieux, voilà. Et pourquoi je raconte ça? Ouais, j'ai perdu mon idée. Tout ça pour te dire que, la clé, c'est dois-je écrire? Et après, au moment où j'ai... Tu vois, je vous dis, ok, j'ai eu la réponse oui quand je l'ai fait sur La Horde. Et pendant 10 ans, j'ai pas eu la réponse oui, tu vois. Ça fait 10 ans que j'ai pas la réponse oui à dois-je écrire. Je sais que j'ai pas besoin d'écrire, tu vois. Je le sens au fond de moi. Je le sens que j'ai envie de faire du jeu vidéo, de faire des scénarios, de faire la création radiophonique, de faire plein de choses collectives. J'avais besoin de faire quelque chose de collectif, mais j'avais pas besoin d'écrire. C'était pas une nécessité intérieure d'écrire. Et donc, j'ai pas écrit, quoi, tu vois. Ça fait hurler mon éditeur, ça fait hurler plein de gens parce que, je veux dire, La Volte dépend en partie de, en grande partie même la survie de la Volt a dépendu en grande partie des recettes aussi à un moment donné, enfin des finances de Mathias et puis des recettes de la Horde et de la Zone et puis de Stéphane aussi, des chronologues. Mais ça ne m'a pas poussé à écrire. Je n'étais pas prêt et je ne répondais pas oui. Et donc, c'est vraiment la clé est là. Et attendre que le public, les gens disent ah, « est-ce que tu as peur ?» Mais on s'en fout du public, honnêtement. Mais c'est terrible de dire ça, je vous dis ça devant vous, machin. Mais je ne ferai pas un bon livre si je suis là pour vous faire plaisir. Quoi. Je ne ferai pas un bon livre si je suis là pour être à la hauteur de votre attente ou pas. Quoi, tu vois, ça, c'est le problème d'orgueil, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui fait un bon livre. Quoi, tu vois. Et après, la page blanche, je n'ai jamais eu cette angoisse-là. Moi, je crois, comme Deleuze, que le problème n'a jamais été la page blanche. Le problème a été la page mille fois écrite. Quoi. Tu vois, tu arrives dans un monde où des milliards de choses ont déjà été écrites et tu dois faire les palimpsestes, tu dois raturer, crever la page, déchirer, raturer tout ce qui a été fait pour trouver toi ta place et arriver à... On n'a pas du tout un problème de page blanche, on a un problème de page trop écrite, de saturation, de textes intéressants qui ont déjà été faits, quoi, tu vois, c'est plutôt ça le problème, c'est au nom de quoi je peux quand même encore vouloir écrire, quand même. C'est...
Bon, j'ai parlé longtemps. Là. Non, mais t'as parlé longtemps, mais c'est intéressant, donc, enfin, je crois, j'espère. Je vous remercie tous d'avoir... d'être resté jusqu'au bout. Non. Bon, donc, alors Mélanie, je sais plus. Mélanie va vous lire la fin de la nouvelle. Donc, je vous rappelle, revenez sur le site Folio dans quelques temps et la nouvelle sera en ligne.
Alors c'est la fin et en gros Step il a réappris à parler par des sons et à la fin il commence à former des lettres dans le paysage et c'est encore pas une idée de moi, c'est une idée qui vient un peu de L. Lévire, donc pareil j'ai encore pillé, voilà. Mais je suis, enfin moi j'ai fait ma thèse sur les muses dans la littérature latine de la Renaissance, je suis persuadée qu'on pille la page mille fois écrite et que c'est entre autres comme ça qu'on s'en sort, donc j'ai pas non plus de complexe vis-à-vis de ça, voilà. J'entends déjà dans le jardin fou de sa chevelure sa voix d'éolienne affolée qui m'appelle. Son poème s'étale en vestiges à leur tour laissés aux caprices du vent. Je m'élance vers le bout du verre, la fin de la phrase. Au lieu de l'arbre, un corps dont je ne sais plus s'il est chair ou mémoire, empreinte ou matière. Peut-être trébucherai-je sur la béance de son chant désincarné, peut-être étreindrai-je un corps mutilé et mutique, ou bien ce sera steppe, et entre nos bras nous filerons à nouveau l'étoffe de la horde. Ni aval ni amont, je traverse la strophe, marche transverse dans ses vers, vers lui, vers ce point final du poème, ce point levé comme une graine de turbule. Et là, j'ai dessiné une turbule, mais je ne sais pas lire la turbule.
Et ouais, le point levé, le point, enfin le point P-O-I-N-T, P-O-I-N-G. Bon, voilà. Bah, je vous laisserai découvrir donc le texte de Mélanie sur le site. Merci Mélanie, merci Alain, merci à vous.
Merci à vous.